Bonjour à tous et bienvenue sur le 132e Comics Weekly. Cette semaine, nous allons parler bien sûr du Batman 17 qui est la fin du fameux crossover Death of the Family. Nous parlerons aussi des conséquences dans Batman et Robin, Katana, la nouvelle série de DC. Du côté de l'indé, nous nous intéressons à Walking Dead, le nouveau Powers Bureau. Et chez Marvel, deux nouvelles séries cette semaine qui mettent le shield à l'honneur avec Secret Avengers ou Uncanny X-Men. Je suis Steve et vous écoutez Comics Weekly. Avec moi ce soir pour chroniquer les sorties, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Mister René Bonny.
Bonsoir à toutes, surtout bonne Saint-Valentin, voilà.
Oh, comme tu es poète.
Et oui.
Et notre grognon, Sam.
Mais non, pas grognon. Bonne Saint-Valentin à tous, les gens.
Tu fais peur un peu quand tu parles
suave,
comme ça.
Ça nous choque. Nous ne sommes pas habitués à entendre autant de délicatesse dans ta voix.
Bon, allez, maintenant on peut parler de bites.
On peut parler de merde.
On voit tout de suite ton inclination, Benny, parce
non,
que
collé
je sais
au
pas, moi j'aurais dit on parle de nichons, mais bon.
Allez,
c'est
on
plus
commence.
Pratique.
C'est vrai que là, je crois qu'on a battu un record hein, dans la moins de la première minute, beat quoi. C'est...
Ouais, bravo Benny.
Bah,
de rien.
Qui
fallait pas l'inviter.
Il fallait qu'on fasse attention à pas trop
oui,
en parler.
Je sais, mais en plus vraiment fait exprès là.
Bah, c'est pour la Saint-Valentin, c'est un cadeau pour toutes les demoiselles.
Exactement, cadeau.
C'est tellement beau, dit comme ça.
Dans ma bouche, c'est tellement beau.
Bon, ben on va continuer à parler de bits.
Oh là 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 là.
Ce que tu veux dans ta bouche, je t'en prie. Mais
comme
ton
chien, justement, j'ai l'impression. Hein.
Il est en train de sombrer, Benny, là. Il sombre.
Bon, bah, excusez-nous pour cette intro rocambolesque, hein.
Ouais,
on va dire ça
fait.
Comme ça.
Sexy Saint-Valentin.
Ça chamboule les hormones.
C'est ignoble. On commence avec la partie DC et bien sûr c'est le Batman 17 qui va nous intéresser. C'est toi, Benny, qui commence à nous parler de ce Batman numéro 17.
En plus, oui, voilà. Alors donc, l'épisode s'intitule The Punchline. Alors justement, ce serait intéressant de savoir si c'est punchy. Scott Snyder est au scénario, Greg Capullo au dessin, bien entendu. La team qui fait la pluie et le beau temps en ce moment chez Batman. Alors, comment résumer cet épisode? On sait enfin, effectivement, ce qui est arrivé à Alfred. Donc, a-t-il survécu ou pas? On le sait dans cet épisode. Qu'est-ce qu'il va devenir des Robin également? Au fait, toute l'histoire commence avec une scène assez étrange dont le Joker a le secret, où tous les Robin et Batman sont attablés pour un dîner assez spécial.
Oui, et Batgirl, oui, tu fais bien préciser, Bruno.
C'est vrai, il y a Batgirl, ouais. Bonne Saint-Valentin à tous, à toutes. Voilà. C'est assez décevant, je vais le dire d'emblée. Hein. De toute façon, déjà là,
ça, c'est ton avis.
Franchement, moi j'ai trouvé cet épisode très très. En fait, je trouve qu'il se passe pas grand chose. C'est un petit peu on range les jouets et puis voilà, il y a pas de révélation finalement, rien qu'on ne savait déjà. C'est du classique. C'est ce que je craignais d'ailleurs, c'est que au fait, il a mis en place un truc assez ambitieux quand même, Snyder avec cet arc. Et il nous promettait quelque chose de grand, et finalement, là, c'est un final qui fait plouf, quoi. Autant Court of the Owls, j'ai pas été super fan, mais le final avait de la gueule, quand même. Qu'on aime ou qu'on aime pas cette révélation, c'était quand même un petit choc.
Je sais pas, moi, c'est pas la révélation qui m'a dérangé, c'est l'épisode qui suivait.
C'était
11, qui, pour moi, n'amenait rien, en fait. C'était une conclusion qui était trop classique, et c'est en fait le même reproche qu'on peut faire à ce Batman 17, c'est en fait, c'est très classique.
Ouais, mais je trouvais que c'était bien écrit. Enfin, je sais pas. Il y avait un dialogue quand même assez percutant que là, j'ai pas retrouvé quoi. Là, franchement, je trouve ça très très classique. On a l'impression qu'il avait plus d'idées, Snyder, avec cet épisode. Donc tout rentre dans l'ordre quoi. J'ai envie de dire tout rentre dans l'ordre un peu simplement. Et il y a plusieurs choses qui m'ont aussi un peu déçu, c'est-à-dire que l'histoire de la carte dans la Batcave retrouvée par Bruce, le doute était permis, on pouvait se faire un petit peu ses propres théories,
non.
Là finalement il nous révèle que il semblerait que ça se soit passé, donc c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il laisse planer le doute. Et puis, bon, après, on va y venir après, puisque c'est des détails, donc je vais vous laisser prendre la parole.
Bah, je vais aller dans ton sens aussi. J'ai quand même bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé la confrontation entre Batman et le Joker. Confrontation plus verbale d'ailleurs qu'avec les poings. Ça, c'était pas trop mal écrit, c'était plutôt intéressant, mais finalement, je reste assez déçu, parce que c'est vrai qu'on nous avait promis Monts et Merveilles, que ce serait quelque chose qui allait changer le Batman à tout jamais. Ben, honnêtement, à la lecture de cet épisode, je vois pas ce qui a changé. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut laisser comme séquelles. Alors peut-être que l'épisode du mois prochain, le 18, nous posera quelques petits trucs qu'on n'avait pas forcément décelés avec ce numéro-là. Mais je reste assez déçu. À noter quand même que c'est un épisode de 30 pages, il n'y a pas de backup cette fois-ci. Mais je pense honnêtement que pour avoir une conclusion efficace, il aurait peut-être fallu une dizaine de pages de plus. Ça aurait peut-être été plus percutant, je ne sais pas. Oui, pardon, je t'en prie, vas-y.
Non, mais je m'attendais vraiment à la fin, tu vois, sur les dernières pages, à un truc, tu vois, qui nous fasse dire « Ah oui, quand même !» Et bah ça n'arrive pas. Voilà.
Bah voilà, c'est pour ça vraiment, que je reste déçu, moi aussi, pour ma part.
Et pour une scène qui... Enfin, pour un épisode qui commence sur une scène de repas, justement, j'allais dire, on reste sacrément sur notre fin, quoi.
Oui, alors que et puis on a quand même cette révélation de qu'est-ce qu'il y avait sous la cloche. Et effectivement, on comprend mieux la réaction du pingouin et de Double Face le mois dernier.
Ouais,
Bruno, apparemment, toi, tu as l'air d'avoir apprécié l'épisode.
Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu plusieurs fois.
Oh là là.
J'ai relu aussi tout l'arc d'affilée. Et moi, c'est vraiment pour moi au-dessus du précédent arc qui concernait la cour des hiboux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que, enfin, dans le sens où vous dites qu'il n'y aura pas de répercussions, je pense que vous... C'est peut-être une erreur de la part de Snyder, parce que peut-être qu'il n'est pas assez clair, mais moi, j'ai ressenti vraiment des gros changements dans la Bat Family, justement. Des choses qui, si elles sont bien traitées, pourraient avoir un rôle important. Après, comme tu dis, on va voir ce que ça va donner par la suite.
Après, il faudra voir, parce que le problème, c'est que ce n'est pas Snyder qui écrit les autres titres Batman.
Exactement. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que c'est vraiment dépendant de comment ça va être écrit après Batman. Après, moi, la confrontation avec le Joker, je l'ai trouvée vraiment intéressante d'un point de vue psychologique. C'était vraiment, je vais pas dire inattendu, parce que on a un Joker complètement fou qui essaye de pousser à bout Batman. Mais j'ai bien aimé la façon dont ça se conclut, et j'ai trouvé assez touchant aussi ce qui se passe au niveau de la famille. Mais
oui, non, c'était très bien, mais le problème, c'est que, comme je disais, on nous avait teasé Monts et Merveilles, un événement majeur qui chamboulerait tout Batman, qui limite, je dis pas de bêtises, à l'époque, nous avait dit « va faire bondir les fans ». Honnêtement, moi, je suis resté dans mon siège assis et...
Ouais, j'ai même pensé, moi, que j'avais loupé un truc. Je me suis dit « c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose, j'ai pas compris la révélation ». Bah, en fait, il n'y en avait pas.
Un petit parallèle. On avait commencé Batman, le run de Snyder, avec une image où on voyait Bruce entouré de sa famille aimante. Et moi, je dis, on va voir ce qui va se passer après, mais le statu quo, je pense qu'il a beaucoup changé.
Non, mais moi,
c'est quelque chose d'important.
Je pense, Bruno, que là où tu te trompes, c'est que le statu quo va peut-être changer, mais uniquement durant le run de Snyder, et qu'après, malheureusement, une fois que ça passera à quelqu'un d'autre,
il n'empêche que ça fait une histoire que moi, je trouve cohérente et intéressante. Ça a bien développé, je trouve, aussi le personnage du Joker dans sa folie. Et puis, après... on va rester d'un point de vue technique, artistiquement, je trouve que ce qu'a fait sur le titre, c'était vraiment sublime. Il y a des détails partout, un Joker bien dégueulasse, des idées complètement folles. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu aussi d'un point de vue artistique. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne surprise.
Sam, justement, on t'a pas encore vraiment entendu sur ce Batman. Qu'en as-tu pensé de ce numéro 17 et de cette fin de crossover que jusqu'à présent, tu trouvais ne démarrait pas des masses?
Pas déçu, parce que je m'attendais à rien. Donc effectivement, comme il n'y a rien, je peux pas être déçu de que ce soit exactement ce à quoi je m'attendais. Sinon, pas déçu pour une seconde raison, c'est que j'ai enfin compris en fait l'approche de Snyder sur son run sur Batman, c'est-à-dire une série de récits indépendants, sans véritable conséquence à la fin, sauf ce qu'il voudra bien récupérer par la suite, mais ça s'arrête à peu près là. Donc c'est vraiment à prendre comme ça. C'est-à-dire des arcs qu'on peut prendre dans n'importe quel sens sans que ça change rien. Et à partir du moment où on le prend comme ça, c'est plutôt un récit de qualité.
Et je suis assez d'accord avec Sam parce que j'ai l'impression que ce sera comme pour la cour des hiboux, ou excusez-moi, mais dans le titre Batman même, les répercussions.
Voilà, on y fait plus référence
ça.
Ensuite. Hein.
Oui, ouais. Mais il est là pour durer, Snyder. Il est là pour durer encore au moins une quinzaine, vingtaine de numéros. Je pense que.
Alors
il
attends.
Va re-
attends, parce qu'avec DC, ça va tellement vite
ouais,
à changer.
Après, ouais, c'est ça. C'est
non, mais lui, c'est un auteur star, donc il restera aussi longtemps qu'il le souhaite tant que les ventes seront à la hauteur. On le sait, ça. Il fait partie maintenant des valeurs sûres
des
de DC. Voilà.
Des architectes.
On peut le dire
il y
comme
en a deux
ça, mais
DC.
Ça fait partie des auteurs qui sont vraiment, je vais pas dire inamovibles, parce que tout le monde peut jacter à un moment ou à un autre. Mais pour le moment, il sait que sa position est.
Il est bien parti pour
est
tenir
aussi sur
autant que Jeff Jones, hein, comme il avait
voilà,
fait sur
oui.
Green Lantern. Un run à peu près aussi long, je pense.
Non, il fera pas 8 ans parce que c'est pas son. Je pense pas que ce soit son style. Je pense qu'il fera encore 20-30 épisodes, mais ça s'arrêtera là. Hein.
Ouais, peut-être.
Et dans 10 ans, le mec est toujours là.
Non, non, c'est pas son style parce qu'il fait des épisodes extrêmement denses, mais sur des arcs très longs. Donc c'est pour ça.
On va parler aussi de la petite, puisque c'est le premier titre d'essai que l'on traite, de ce petit bonus qu'on a à la fin de
Attends,
tous les épisodes d'essai.
Ouais, je voulais juste dire un truc dont je te parlais hier. Il y a quand même un truc qui m'a un petit peu dérangé dans cet épisode, c'est la scène de flashback, parce que
oui,
au fait, on voit le Joker avec simplement
Attends,
un sourire d'ange.
Elle est très spoil, la scène de flashback.
Non, non, mais c'est juste la tête du Joker, c'est ouais. Ça au fait. On voit le Joker avec un sourire d'ange. Et en fait, je comprends pas pourquoi il a cette tête-là, alors que après il a la face de clown qu'on lui connaît.
Ah,
et donc,
on va juste expliquer ce qu'est le sourire d'ange, parce que c'est vrai qu'à l'audio, déjà, c'est pas forcément évident, et peut-être que des gens ne connaissent pas cette expression. C'est quand on a coupé le coin des lèvres jusque dans les joues pour une espèce de torture, quoi.
Bah, au fait, il a la tête du Joker façon Nolan, mais ensuite il est représenté sur un ordinateur avec sa tête classique. Donc, ça veut dire qu'il a subi des évolutions et bah ça m'a interpellé. Je me suis dit tiens c'est bizarre. Pourquoi au début il avait cette tête là et pas celle qu'on lui connaît. Qu'est-ce qui s'est passé. Enfin comment ça se fait quoi. Ça m'a un peu dérangé. J'aurais aimé qu'on nous explique un peu quoi pourquoi.
Mais je crois qu'ils sont repartis comme sur l'ancien univers avec le Batman de ce New 52. C'est-à-dire que le Joker on n'aura jamais vraiment son origine et puis c'est tout quoi. C'est le personnage, on ne connaîtra jamais vraiment ni l'identité, ni l'origine.
Et j'ai tant mieux comme ça.
À moins que, hein, parce que je veux dire, là, Snyder est bien parti pour revenir un peu sur ces choses-là. On l'avait vu dans le numéro 0 avec,
je sais
avec
pas,
le,
parce que...
le clan du Red Hood, et ils ont dit qu'il reviendrait dans cette année. Hein.
Mais le problème, c'est que même Alan Moore a dit, en fait, quand il a écrit Killing Joke, c'est qu'il n'était pas entièrement satisfait parce que les personnages, au bout d'un moment, avaient repris le dessus sur ce qu'ils voulaient vraiment dire. Et c'est pour ça que même cette origine-là du Joker, on peut pas vraiment s'y fier, en fait. C'est comme il le dit à la fin, j'ai plein de versions dans ma tête, je ne sais plus laquelle est vraiment la vraie. Donc ça fait vraiment partie de ce personnage sur lequel on peut inventer 10 milliards d'origines, mais dire que c'est la vraie en même temps que ce sera faux.
Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, le Joker aurait eu son accident avec la cuve d'acide.
Ah ça c'est maintenu. Hein.
Après même qu'il ait combattu Batman déjà une première fois.
Non, je pense que l'origine, c'était dans... Non, c'était pas dans Year One, c'était plus tard. Non, c'était dans Year One. Le truc où il est le Red Hood et Batman le fait basculer dans la cuve d'acide, ça s'arrête dans la continuité, hein. Ça s'est pas changé.
Oui, d'accord, mais là, comme on le voit sans sa tête de clown, mm-hmm. Ça voudrait dire que ça a lieu après que Batman l'ait déjà affronté. C'est ça que je veux dire. C'est étonnant,
ah bah,
moi ça m'a étonné.
Non, 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 enfin, on le voit quand même avec déjà les cheveux verts et tout, donc...
Ouais,
déjà allé
mais...
dans la cuve.
Bah,
enfin bon, c'est un détail. On verra si
ça pourrait être simplement
si
un maquillage
expliqué,
là,
mais...
tu vois, comme ouais. Avec Nolan, je sais pas.
Enfin bon, lisez ce numéro parce que c'est quand même un numéro, voilà, c'est la fin d'un arc important.
Et comme le dit le titre, moi je trouve qu'il y a une bonne punchline à la fin.
Moi, il y a une
ça,
bonne
punchline
à la
ça
fin.
Excellent.
C'est bien amené, la cinématique est intéressante, donc c'est pas mal.
Donc on va parler vite fait de ce petit backup qu'on a dans tous les titres d'essai de ce mois-ci, puisque c'est le premier, autant le traiter maintenant.
Deuxième. Enfin oui,
non,
là,
c'est
on
le premier
en
titre
un...
d'essai que l'on traite là, tout de
oui,
suite,
oui,
donc autant
pardon.
Parler maintenant pour ne pas se répéter plus tard dans l'émission. Deux petites pages, Channel 52, donc chaîne numéro 52, et on nous tease un petit peu ce qui se passe dans les autres titres, grosso modo.
Ouais.
Pas lu, rien à foutre.
Bon, c'est pas mal.
Il y a juste un truc marrant, c'est le Calendarman, puisque c'est le serial killer qu'on voit dans Long Halloween, qui là présente les infos, donc c'est assez drôle. Enfin, qui est journaliste, quoi, sur le terrain.
Moi, je trouve ça plutôt sympa pour parler un peu des autres séries. Enfin, c'est mieux que d'avoir une colonne écrite.
Oui, bah
t'es méchant,
voilà,
quoi.
Il y a quand même un effort d'essayer de faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est que bon, là, on nous présente quoi? On nous présente Katana, on nous parle du bisou entre Superman et Wonder Woman, et on nous parle de Threshold. Seul problème, c'est que les séries ne sont pas nommées. Et donc, si ce truc-là nous intéresse, bah c'est un peu difficile pour savoir ce que c'est, quoi, quand on connaît pas très bien. C'est un petit peu dommage, quoi. C'est bon, Katana encore, ça reste assez facile à identifier. Pour le bisou de Superman et Wonder Woman, bon, à la rigueur, j'ai envie de dire peu importe. Mais pour Threshold, qui est une série qui commence juste et qui a peut-être besoin d'un petit coup de pub, ça aurait été bien de la nommer vraiment, quoi. Que les gens sachent ce qui se passe, enfin voilà, où ils peuvent trouver ce truc-là si ça les intéresse. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Bon, voilà, mais ça cassait peut-être un peu le quatrième mur. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. En tout cas, il y a une démarche intéressante puisque c'est une démarche. Assez inédite, quoi, de présenter ça comme ça. Et surtout que j'ai l'impression que c'est un truc qui va revenir chaque semaine, puisque l'on voit à la fin, c'est que deux petites pages, hein, mais on voit qu'il y a d'autres news qui vont être annoncées, mais dont on ne nous parle pas encore, puisqu'on voit que le conducteur défile derrière la présentatrice. À mon avis, c'est quelque chose qu'on reverra chaque semaine maintenant.
Ouais, puis bon, c'est le retour dans Bush Bug, donc ça fait toujours plaisir.
Voilà, alors ce Batman, finalement, votre note finale.
Gros bail.
Check it, parce que c'est intéressant quand même. Un bon check it, je dirais.
Moi, justement, un petit check it, parce que très déçu et pas grand chose à en dire, quoi. Ça m'a laissé froid.
Check it pour moi aussi. Bonne histoire, conclusion peut-être décevante, à mon goût. Donc voilà. Bon, trois check it, un bail. Ça reste quand même une lecture solide de cette semaine. On continue. Sam, tu vas nous parler du Batman et Robin 17.
Oui, toujours scénarisé par Peter Tomasi et dessiné par Patrick Gleason. Donc un épisode qui se situe clairement après la conclusion de This of the Family, où en fait, l'histoire très simple, on plonge en fait dans les rêves de Batman, de Robin et d'Alfred, donc après cette expérience légèrement traumatisante. Un épisode dans l'ensemble assez sympathique, on plonge un peu en fait dans les différentes peurs des personnages, la manière dont ils auraient voulu par exemple affronter le Joker, ce genre de choses. Personnellement, j'aime toujours bien les épisodes comme ça, situés dans les rêves des personnages, parce que ça permet de les explorer plus avant. Un épisode sympathique dans l'ensemble. Donc un bon check-in pour moi.
Ouais, moi je l'ai lu aussi. Pour moi, c'est un épilogue indispensable à Death of the Family. On voit vraiment dans quel état psychologique se retrouvent Batman, Alfred et Damian. On a droit à de très belles scènes, en plus toujours aussi bien illustrées. Je veux dire, on a une métaphore du Joker que j'ai trouvée excellente. Ouais.
et puis il va très bien Batman en plus.
Ouais, voilà, c'est ça. Et y a une scène aussi avec Alfred où on se dit tiens, si jamais un jour il pouvait vraiment se passer ça dans le comic, ça pourrait être cool. Et donc voilà, non mais c'était surtout aussi très touchant, pareil, il continue à jouer sur la corde sensible le rapport entre Bruce et son fils. Avec trois dernières pages que j'ai trouvées superbes. Donc voilà, ça joue un peu la carte de l'émotion, toujours avec une fantaisie dans le graphisme. Pour moi, c'est vraiment un très bon titre qu'il faut lire après avoir lu Death of the Family. Un bail.
On va passer maintenant à la sortie de la semaine chez DC. C'est Katana numéro 1, scénarisé par Innocenti avec des dessins de Alex Sanchez. Alors, Alex Sanchez, je ne connaissais pas. Un style vraiment particulier, très percutant, qui correspond bien à quelque chose qui tire ses influences du monde japonais, hein, puisque Katana, qui va se passer à Japantown, à San Francisco, je trouve que ça correspond tout à fait. Ah, tu l'as lu aussi, hein, Bruno, hein.
Ouais, j'ai trouvé ça super beau. Tout ce qui est les scènes de combat sont bien mises en scène. Non, mais ça m'a beaucoup plu au niveau graphique.
Quand je l'ai feuilleté la première fois, j'ai vu la première page, je me suis dit « Oh là là, c'est vraiment particulier comme graphisme, puisque je n'avais pas vu d'image avant la sortie de l'épisode. » Et je me suis dit, oh là là, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, en fait. J'étais un petit peu... Et à la lecture, non, ça passe vraiment très bien. Franchement, visuellement, c'est quelque chose d'assez efficace. Maintenant, au niveau de l'histoire. Alors déjà, premier truc, ça me fait rire. Sur la cover, on a... venant des pages de Justice League of America, Katana. Ouais, d'accord, sauf que Justice League of America, on l'a pas, donc...
Oui, ça sort la semaine prochaine.
Juste un petit peu un effet raté, quoi. Mais bon, c'est ce qu'ils ont avait décidé de le retarder. Katana est aux prises avec un ennemi qui a une épée très particulière.
Quoi,
une épée molle. C'est une épée molle.
C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent.
Les joueurs de Soul Calibur sauront à quoi ça consiste, une épée molle.
Une sorte d'épée ruban, quoi. Ruban de gymnaste.
Épée fouet.
Ouais, voilà, c'est un peu ça.
Ah, ouais. Ivy.
Donc, un peu comme Ivy, ouais.
Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Et on va suivre Katana qui va s'installer à Japantown, donc à San Francisco, pour je sais pas, faire des recherches.
En fait, elle a entendu parler d'une femme, d'une légende qui aurait sur elle des tatouages qui racontent un petit peu l'histoire des différents clans japonais. Elle a des tatouages sur tout le corps et elle voudrait aller voir cette femme pour avoir des informations sur un clan sur lequel elle enquête. Et donc elle va là-bas pour ça.
Crying Freeman.
Ouais. C'est une femme prostituée un peu contre son gré.
Ouais, qui a l'air d'être un peu emprisonnée. Je pense qu'ils vont revenir dessus dans prochain numéro, j'espère.
C'est clair.
C'est mystérieux, on va dire.
Bon, le premier numéro est pas trop mal. C'est assez rythmé, ce qui fait qu'on s'ennuie. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer à la lecture. Maintenant, est-ce franchement intéressant? Ben, je sais pas. Il y a toujours cette histoire, hein, pour ceux qui connaîtraient pas Katana, de son épée. Son mari s'est fait tuer avec cette épée-là. Et elle pense que son mari est enfermé dans l'épée. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai, est-ce dans sa tête ou n'est-ce pas seulement une légende? Voilà.
C'est la base du récit d'Anne Nocenti, ouais. De donner un rôle plus important à l'épée et qu'en fait, il y a des choses qu'elle ne connaîtrait pas sur cette épée. Et elle est pourchassée par un clan de ninjas. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est surtout le côté dynamique des combats. Avec il y a un moment, un parallèle entre quand elle s'habille. J'ai trouvé la scène vraiment bien illustrée, où on voit tous les accessoires qu'elle met sur elle, les bijoux, tout ça, et l'influence que ça a dans le combat après. J'ai trouvé que c'était assez malin. Ça m'a bien plu.
C'est clair. On pourrait se demander où va cette scène, s'équipe comme une ouf, et puis finalement, ce sont pas juste des petits détails ou juste pour faire quelques pages supplémentaires. Non, c'est vraiment bien utilisé. La dynamique est très bonne, visuellement c'est très agréable. On plonge vite dans le récit. Maintenant, après, en termes d'intérêt, je sais pas.
Ouais.
Je sais pas.
Bah voilà, après c'est pas majeur. Je veux dire, c'est.
J'ai envie de dire quand même, allez voir. Allez
ouais,
voir.
Ouais, moi aussi.
J'ai envie de dire 8 à 10. En termes de numéro. Voilà.
Ce qu'Anne Nocenti a promis, c'est l'apparition de personnages a priori importants dans l'univers DC plus tard dans la série.
Ouais, alors ça,
et bon,
contre...
ça c'est du teaser classique.
Attends, c'est
dire.
Bon, on va avoir Batman et on va avoir Superman qui vont apparaître au numéro 3 et 5, ça va quoi. Le coup
un
classique.
Un petit clin d'œil, je sais pas si t'as fait gaffe, à un moment il parle du clan Outsider. Sachant que Katana faisait partie des Outsiders avant les New 52, c'était marrant.
Ouais, mais enfin, tu vois, moi, c'est ce genre de petit clin d'œil à l'ancien univers, au bout de 17 mois, ça me fatigue.
Ouais.
Franchement, ça devient un petit gimmick. Même moi qui pourtant connais les références, franchement, ça me saoule. Donc, tirez un trait sur l'univers une bonne fois pour toutes sur l'ancien, ou revenez-y, mais pas entre les deux, quoi. Ne nous faites pas croire que peut-être que, on sait jamais. C'est bon, quoi. Donc, disons que je vais dire un check-it plus, quoi, pour celui-ci.
Ouais. Moi, je vais dire aussi un check-it plus, c'est pour le côté artistique, ouais.
Ouais, voilà. Allez-y si vous avez envie de voir un truc d'influence japonaise, voir ce que ça peut donner, version comics. Pourquoi pas. Et moderne, surtout. On termine la partie d'essai avec le deuxième numéro de Threshold, Bruno.
Oui, donc le titre de Keith Giffen avec des dessins de Tom Raney pour la partie qui concerne The Hunted et de Scott Collins pour la partie backup autour de l'Arflees. Donc, deuxième numéro, on est sur cette planète où en fait on a Lady Styx qui sélectionne un certain nombre de personnes qui sont considérées comme des gens mauvais, des malfrats, et qui donc se retrouvent sur cette planète, et ils ont le droit d'être, enfin, disons que la population a le droit de les tuer et de les assassiner, et ça c'est autour d'une sorte de télé-réalité qui a lieu sur toute l'échelle de la planète.
Oui, chaque criminel possède une prime en fait sur sa tête, et du coup les gens cherchent à les buter pour se faire de l'argent, quoi.
Voilà, après, donc c'est vraiment télé-réalité, c'est-à-dire qu'on a même des pages spéciales où on a un petit peu les publicités qui expliquent ce qu'est l'émission, on a un petit peu de propagande, on a le côté un petit peu du côté de l'animateur de l'émission.
C'est très ressemblant à ce qu'on avait vu chez les X-Men avec le Mojo World, hein, honnêtement.
Oui, voilà, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, c'est toute une galerie de personnages qui sont plus ou moins, enfin, il y a des nouveautés, il y a des anciens persos de DC un petit peu obscurs qui arrivent là-dedans. On a le retour de Blue Beetle sur ce numéro, puisque à la fin de la série Blue Beetle, il s'était fait pécho par l'organisation de Lady Styx. Là, en fait, c'est surtout tourné la première partie sur le fait que justement ils vont lancer Blue Beetle dans l'arène et que comme on a un Green Lantern, un ancien Green Lantern dans le jeu qui est donc ce personnage de Cole qui était dans le numéro 1, les Beetles sont programmés pour attaquer les Green Lantern et donc voilà, il y a Cole qui est un petit peu dans la merde. Après, moi, je trouve que c'est assez sympa à suivre. C'est parfois un petit peu. Je trouve que les dialogues sont pas si évidents parce qu'il y a d'utilisation un petit peu d'argot inventé extraterrestre qui parfois, je
Oui,
trouve,
mais
ne
alors,
facilite pas la
à savoir
lecture.
que c'est toujours le même dans toutes les séries d'essais, hein.
Ouais, je
Quand
sais,
tu
mais du
regardes
coup,
dans
c'est...
Green Lantern, etc., c'est exactement le même argot, quoi.
Exactement, mais c'est ils ont gardé au moins une. C'est un peu comme dans Battlestar où ils utilisent frac pour dire fuck. Là, ils ont trouvé de nouvelles expressions, mais je trouve que parfois c'est pas si évident à suivre la narration. Mais bon, je trouve ça intéressant.
Tu n'as peut-être pas beaucoup lu le Marvel Universe cosmique, mais c'est un peu pareil dans le Marvel Universe cosmique, hein.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'il est quand même pas si simple à lire. Enfin, je sais pas au niveau des personnages, des motivations.
Ouais, bah
Je parle pas que des expressions, je parle vraiment
il y a beaucoup de
des
personnages, faut
dialogues.
dire. Il y a
Ouais, il
beaucoup
y
de
a beaucoup de
personnages.
personnages.
On revoit les deux personnages qu'on avait vus à la fin du premier numéro, là, qu'on savait pas trop qui c'était. J'ai trouvé ce numéro 2 dans l'ensemble plus agréable à lire que le premier. Je sais pas, j'étais plus dedans, c'est peut-être plus rythmé, il se passe plus de choses. On a l'arrivée donc de, bah, comme tu l'as dit, de Blue Beetle, on a l'arrivée de Captain Carrot. On a vraiment
Oui,
pas
avec
mal.
un magnifique jump kick à un moment
On a
qui m'a
vraiment
bien
pas
fait
mal de
rire.
trucs. Est-ce que la série va tenir? Moi, ça reste mon inquiétude principale, quoi.
Moi,
J'ai
c'est pas.
de loin, hein, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne série, comment dire, cosmique d'essai.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, assez lié avec l'univers Green Lantern, sur le papier, ça paraît bien. Maintenant, est-ce que les ventes vont suivre? Moi, franchement, j'ai des gros doutes, quoi.
Bah, il y a juste le titre, quoi. Vraiment, très chaud. Pourquoi? Pourquoi?
Ouais, à la rigueur, ils auraient dû l'appeler The Hunted, quoi, ce qui est écrit en gros, en fait, parce que Threshold est écrit en tout petit sur la couverture, mais...
Ouais, mais bon, ça leur laisse la possibilité de pouvoir changer de concept.
Exactement.
Parce que
C'est-à-dire de
Threshold, c'est quand même
continuer,
le seuil, sachant que ça se passe aux confins de l'univers, ça reste logique, et s'ils veulent partir de cette planète arène et faire des histoires ailleurs, ils seront pas emmerdés.
Ouais, ils peuvent pas continuer plus de 10 numéros sur le même concept.
On a ce
Enfin...
petit backup de Larfleeze, on va passer très vite dessus, c'est toujours très
Oui.
drôle, moi ça me fait
Oui, c'est
marrer.
drôle. Ouais, c'est clair. C'est marrant.
Ça relève un peu plus le numéro, je trouve. Il y a
Bah ouais,
juste
c'est
la version
Larfleeze qui
Scott
s'est fait
Collins, moi
voler.
j'aime
Ouais.
pas. J'aime
Ah
pas
ouais.
comment il dessine Larfleeze, en fait. Il lui donne un côté un peu trop chien.
Ouais, la tête de chien, ouais, un petit peu, ouais. Bon, ouais, moi ça m'a pas trop gêné, et
Ah
puis
non,
bon,
bon, non,
c'est...
mais sorti de là, voilà,
Ouais.
c'est...
C'est marrant de voir Larfleeze qui a perdu toutes ses choses, donc il est bien dégoûté.
Et puis avoir ses créations qui se retournent contre lui.
Ouais, carrément.
Contrôlées par quelqu'un d'autre. Donc non seulement il s'est
Carrément.
fait tout dérober de ses possessions, mais en plus ses créations se retournent contre lui. Assez intéressant.
Ouais, non, c'est sympa. Un titre agréable.
Check it.
Agréable à lire. Check it, ouais. Check it aussi.
On va maintenant passer à la partie 1D, c'est le Walking Dead dont tu vas nous parler, Bunny. J'ai oublié le numéro 106.
Donc, Walking Dead 107.
Ah, pardon.
C'est pas grave. Au scénario, nous retrouvons donc Robert Kirkman, au dessin Charlie Adlard, bien entendu. Alors, c'est un petit peu le double effet qui se coule. On s'est arrêté sur un gros cliff de ouf. On attendait la suite avec impatience et bah finalement il se passe rien. Alors quelquefois autant on s'attend à rien et d'un seul coup il se passe un truc de ouf, et là c'est le contraire. Donc c'est un petit peu, ça retombe un petit peu. Et puis on pouvait s'attendre à un épisode d'action et au fait c'est un épisode surtout de discussion et de blabla. Bon, en gros Rick est toujours à essayer de préparer son grand plan pour renverser Negan, le nouveau grand méchant de la série. Pas grand chose, si ce n'est à la fin l'apparition d'un Enfin, on va dire la mention un nouveau personnage dans la série, qui s'appelle Ezekiel. Et bah voilà, j'ai hâte quand même de découvrir ce personnage.
D'accord.
Un bon bail hein, quand même, hein, ça reste que du Walking Dead, c'est toujours super plaisant, c'est vraiment la lecture que je fais dès que ça sort. Voilà, donc pour le moment c'est le seul comic pour lequel je ne peux pas résister de le lire dès le jour de la sortie, donc voilà, ça reste un bon bail.
Ok. On continue avec une nouvelle série, c'est le retour de Powers. Pour combien de temps? Je commence en trollant. Powers Bureau numéro 1, scénarisé par Brian Michael Bendis, bien sûr, et Michael Avenoming qui l'aide au scénario et qui dessine aussi. Alors, comment résumer ça? Des hommes enceintes, du sperme à pouvoir, des trafics d'enfants. Voilà, je crois que déjà, si vous n'avez pas envie de le lire avec ça, on peut plus rien faire pour vous, hein.
Ouais.
Des flashbacks à outrance, une nouvelle direction pour le titre. Non, franchement, très très sympathique, une lecture assez fluide. Alors Sam, toi qui as vraiment tout lu Powers, moi j'en suis resté qu'au volume 1, j'ai commencé le volume 2, je suis assez en retard, dû à la parution française. Enfin, en même temps, vu la parution VO, c'est pas forcément mieux. Mais bon, du coup, est-ce que toi tu trouves que c'est assez difficile de s'y prendre comme ça?
Oui, pour un nouveau lecteur, c'est même pas la peine d'y penser, puisqu'il y a, en fait, il y a toute une partie des références sur le passé qui sont, qui se passent en fait dans le volume, juste entre le volume 2 et le volume 3, parce que là, c'est censé être volume 4, hein, quand même, même le dire, et qui sont une période très particulière de la vie de l'inspecteur Pilgrim. Si vous n'avez pas suivi le volume 2, vous comprenez pas pourquoi elle est dans cette situation-là. C'est un peu le problème.
Honnêtement, moi qui ai lu juste le début, je me suis pas senti des masses larguées avec le petit résumé qu'il y a au départ. Je connais les personnages, bah j'ai pas eu ce sentiment. Alors oui, je sais qu'il manque des trucs, mais honnêtement, je me suis pas senti largué. J'ai plongé dedans quasiment dès le départ. Et voilà. Enfin, moi, la lecture m'a convenu. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut absolument connaître un minimum les personnages et l'histoire.
Oui, tous les personnages, hein, parce que sinon, c'est pas la peine.
Oui, alors par contre, oui, il y avait des nouveaux personnages apparemment. Ceux-là, je les connaissais pas, mais ça m'a pas dérangé, quoi. Franchement, je me suis dit, bah voilà, ils sont là, bah tant mieux.
Non, sinon, un épisode sympathique, oui. Ça manque de cul, mais oui.
Attends,
Comme c'est
attends,
si
t'as quand
joliment
même
dit.
une scène d'un mec qui
Oui.
se fait arrêter en train de se pougner. Je suis désolé, il y a du cul.
Ouais, mais
Ouais, mais c'est
c'est
pas vraiment le
léger
cul que je
comparé à ce que
cherchais,
Powers
Sam, je
nous a
pense.
habitué d'habitude. C'est très très léger. C'est gentillet même.
Alors, par contre, le langage. Attention, attention aux âmes sensibles.
Ouais. C'est
Ah, bah
toujours
si.
du Bendis sur Powers. Hein. J'ai toujours perçu Powers, moi, comme le titre où Bendis pouvait enfin se lâcher. Ouais,
Peut-être,
c'est.
mais si des gens ne s'y attendent pas, ça peut peut-être les surprendre. Un
Voilà, donc il y a du
langage
fuck à
très
toutes les pages.
châtié.
Voilà, il doit beaucoup ronger son frein hein, sur Marvel pour pas utiliser tout ce langage
Oui.
parce que.
Mais c'est pour ça, donc, pour ça
Il doit
qu'il se
avoir un
lâche sur
correcteur, tu sais, qui lui enlève tout ce qu'il a
Powers.
écrit.
Donc, en fait, là, pour un minimum d'histoire, quand même, c'est vraiment la suite directe, de la fin du volume 3 qui changeait vraiment le monde de Powers pour de vrai. C'est-à-dire que quand on a une annonce de ça va changer l'univers pour toujours, bah là c'est vrai. Il y a de graves répercussions sur le monde de Powers, sur la manière dont les pouvoirs, les super pouvoirs sont perçus dans le monde de Powers, qui
Bah tout ce...
entraîne
Ouais,
une
vas-y,
nouvelle
je t'en prie.
gestion en fait
Oui,
des
voilà, c'est
super
ça, une
pouvoirs.
nouvelle gestion totalement.
Voilà.
Les cas concernant les pouvoirs ne sont plus des simples cas avec une brigade spéciale comme on avait pu le voir au
Voilà.
départ,
Maintenant,
mais
c'est
sont gérés
géré.
maintenant par le Bureau des Affaires fédérales, donc le FBI.
Et tant mieux, parce qu'en général, ils ont plus de pognon. Donc, faut dire qu'au niveau local, quand même, ils s'en prenaient plein la gueule. Hein, dans les... Je
Ouais.
compte même plus le nombre de flics morts jusque-là. C'est.
On a voilà le personnage qui est le responsable de cette section du FBI qui s'occupe de ça, qui s'entend très mal avec Dinah Pilgrim, le personnage principal du récit. On a une bonne dynamique entre eux. On a le personnage de Walker qui est présent hein,
Bah, en
pour les
toute fin.
fans et au début. À vous de
Oui, une
découvrir
petite
pourquoi.
mention.
Les flashbacks sont plutôt bien gérés parce qu'on a beaucoup de flashbacks avec un petit effet qui nous explique quand ça se passe. Sur l'image, enfin je sais pas, j'ai trouvé que
Oui, c'était bien géré.
la façon dont c'est amené les flashbacks, c'est bien géré quoi. Ça te perd pas et ça te met pas non plus le gros truc carrément une page 3 mois avant.
Par
Voilà.
contre, ça fait très télévisuel. Hein. On
Bon, de
sort
toute
le
façon, ça a
mec
toujours
qui.
été le cas de Powers. Hein.
Ouais, mais là encore plus, et on sent que c'est parce que ça fait 2 ans qu'il bosse sur le pilote de Powers à la télé. Donc,
Qu'on verra peut-être un jour.
Oui, un jour.
Comme la suite de cette série, qu'on verra peut-être un jour. Non, apparemment, ils nous ont dit que. Enfin, ils nous ont dit, pas nous personnellement, hein, mais ils ont dit qu'ils avaient déjà plusieurs numéros d'avance et que c'est pour ça qu'ils sortaient cette série. Ils avaient attendu de la sortir avant, avec des numéros pour éviter qu'il y ait trop de retard.
Oui, le problème c'est qu'ils ont dit la même chose du volume 3.
Oui, enfin, ça va durer 6 épisodes et puis après, on aura un épisode tous les ans,
Voilà. Mais
comme
en
avant.
général, c'est tellement bon que personnellement, ça me dérange pas d'attendre. Enfin, si, ça me fait chier d'attendre, mais je suis content que ça continue à sortir.
Bon check-it plus à réserver uniquement aux gens qui connaissent un petit peu la série. Sinon, vous lancez pas dedans.
Pour moi, ça reste un bail.
On termine la partie indé avec le deuxième épisode de Star Wars, Bruno.
Ouais, chez Dark Horse, donc Star Wars numéro 2, par Brian Wood au scénario et Carlos Danda au dessin. Un très bon numéro, meilleur que le premier. L'histoire avance, on voit vraiment vers où ça va aller. Donc on a toujours cette histoire de que la rébellion cherche un nouveau lieu, puisque ils savent pas trop où se cacher de l'Empire. Et donc on avait vu que Leia, au fur et à mesure qu'elle était dans l'espace et qu'elle cherchait des nouvelles planètes, il y avait toujours l'Empire qui apparaissait quand ils découvraient une planète intéressante. Donc ils se disent, il y a peut-être une taupe dans la rébellion et quelqu'un qui donne des informations à l'Empire. Donc en fait, elle décide de monter. Enfin, c'est Mon Mothma qui lui demande de le faire. Elle décide de monter une équipe d'agents un petit peu Black Ops qui vont être en dehors de ce que fait la rébellion. Et dans ce numéro, en fait, on a la présentation de ces différents personnages, six personnages créés par Brian Wood, qui ont l'air intéressants, qui ont des backgrounds un petit peu. Il y a des extraterrestres, il y a des terriens, il y a des humanoïdes. Et voilà, là on sait un petit peu que peut-être parmi ces personnes, en plus il y a quelqu'un, il y a peut-être le traître, hein, parce que toujours hein, dans ces histoires un peu de traîtres, ils sont toujours plus proches qu'on ne le pense. On a aussi Yann Solo, et qui avec Chewbacca, il y a Mon Mothma qui lui a envoyé faire une mission sur une planète pour apporter des informations, et on voit vers où il se dirige. Il est poursuivi par Boba Fett, ça fait toujours plaisir ce genre de petits clins d'œil, et il va sur une planète. Je pense que ça va être intéressant quand les fans vont découvrir sur quelle planète il va. Donc franchement, voilà, de bonnes histoires. Ça me donne envie de voir la suite, et c'est toujours aussi bien illustré par Carlos Danda. Les scènes spatiales sont sympas. Il y a un nouveau méchant, un colonel qui remplace Vador, qui s'appelle le colonel Bircher, qui a l'air assez charismatique. Donc franchement, un bail, une bonne surprise ce titre.
Ok, juste pour mentionner la sortie du deuxième épisode de The Highways de John Byrne chez IDW, deuxième numéro de la mini-série. Très sympathique, l'histoire avance bien, on se retrouve un petit peu dans la pleine conspiration côté SF. Et la sortie du quatrième numéro de Clone, dessiné par Juan Roserip. Et alors là, par contre, en termes de conspiration, c'est d'un autre niveau. Franchement, je vous encourage à continuer cette série, vraiment très très bien foutue, même si elle commence avec un côté un peu déjà vu, le mec est cloné qui ne s'en était pas aperçu. Beaucoup plus complexe que ça.
Tu me disais, Steve, aussi avant l'enregistrement, malheureusement je l'ai loupé, la sortie de Todd, le deuxième numéro du gamin le plus moche du monde.
Ouais. ouais, qui est sorti cette semaine.
Le premier était super sympa, donc voilà.
Le premier était un très gros succès.
Ouais, c'est très très bonne vente pour Image. Ouais.
Introuvable.
Grâce à nous. Hein.
Ouais. Grâce à toi.
Voilà. On va passer à la partie Marvel maintenant. Bah, Benny, justement, tu vas commencer par nous parler du gros numéro 1 de cette semaine. C'est le Uncanny X-Men.
Ouais, Uncanny X-Men numéro 1 par Brian Michael Bendis à nouveau, et par contre Chris Bacalo au dessin. On va commencer par la partie graphique. Les dessins sont assez clairs, j'ai trouvé, pour du Bacalo.
C'est son pieu.
Ça m'a pas perdu.
J'aime pas.
Alors moi, il y a vraiment des avis tranchés.
Je suis un peu comme Steve, je suis vraiment pas très fan, je dois dire, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre.
Ah, moi j'ai jamais été fan de Bacalo, jamais.
Je préfère nettement les dessins de sur All New X-Men, hein, de Immonen et puis je ne sais plus
David Marquez.
Voilà, exactement. Je préfère nettement. Par contre, ça m'a pas dérangé non plus. J'ai trouvé qu'il était assez clair, moins brouillon que sur des trucs comme parfois Wolverine and the X-Men.
Et je trouve, moi, que son style s'y est vachement à l'ambiance un peu espionnage, etc. Toutes les scènes au sein du Shield, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus sympathique que les scènes d'action.
Moi, je suis pas d'accord. Je trouve ça beau partout.
Bon, voilà, comme ça, tous les goûts sont dans la nature.
Voilà, c'est ça, ouais, mais Bacalo, de toute façon, ça a toujours été un dessinateur qui divisait. Hein.
Le seul truc qui me choque, c'est la coupe de cheveux de Emma Frost. Mais, voilà.
Pourquoi ?
Bah, là, les cheveux tout courts, là. Ça fait bizarre.
Mais alors, là, c'est pas nouveau. Hein.
Bon, au New X-Men, il me semble qu'elle avait les cheveux longs, mais.
Oui, avant, elle avait les cheveux longs, mais.
Il a dessiné Emma Frost pendant très longtemps au sein de Generation X.
Voilà, oui, il a dessiné avec les cheveux courts. Hein.
Et puis on dirait qu'elle a 12 ans, quoi. Mais.
Ah, ben ça, alors ça a toujours été le problème de Bacalo. il est capable que de rajeunir les persos. Il sait faire que ça, quoi. Rappelez-vous, dans Generation X, quand il était revenu, les gamins, ils étaient censés avoir 14-15 ans. Sous ses crayons, ils en avaient entre 6 et 8. Ouais. Moi, c'est toujours ce qui m'a énervé chez Bacalo. T'as l'impression de voir que des enfants, quoi. Regardez la première page avec Maria Hill. Maria Hill, elle a 8 ans là. Peut-être pas. Elle a 15 ans.
Mais non.
Ah, bah c'est peut-être l'autre, c'est peut-être Daisy Johnson.
Non, c'est Maria Hill.
Maria Hill, il la nomme. Ouais, bon, alors on va parler un petit peu du scénario justement. Donc ça commence un peu c'est un peu surprenant, dis donc. J'arrive plus à faire deux phrases. Donc ça commence dans les locaux du Shield. Et justement, au fait, Maria Hill interroge un prisonnier, ou en tout cas ce qu'on imagine être un prisonnier, qui a des révélations à lui faire. Et on comprend vite que c'est un traître. Qui provient de l'équipe de Cyclope, puisque de toute façon, c'est ce qui nous a été teasé à propos de ce numéro 1 d'Uncanny X-Men. L'épisode, moi je l'ai trouvé pas embêtant du tout, quoi. Enfin voilà, ça m'a bien. Je me suis pas ennuyé, voilà, c'est, je trouvais ça sympa. Et puis voilà, bon bah il y a ce final, on découvre qui c'est à la fin. Alors, un peu dommage, j'ai découvert, enfin j'ai deviné qui c'était au milieu de l'épisode, parce que c'est un petit peu évident tout de même.
Bah oui,
carrément.
Mais par contre, ça donne lieu à une situation vraiment intéressante, et j'ai hâte de voir la suite. Moi je trouve qu'il y a un petit côté Homeland, voilà, dans cette histoire. Bon, on verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que Bendis se retrouve avec deux titres qui, même s'il y a un sujet un peu en rapport l'un avec l'autre, bah, c'est deux intrigues quand même qui m'intéressent, et je me demande si elles vont s'entrecroiser ensuite, parce que ça pourrait donner lieu à des choses vraiment super passionnantes.
C'est prévu qu'il entrecroise ces titres. Hein.
Ouais, bah, justement, enfin, j'ai hâte de voir comment il va faire, parce que là, en tout cas, on voit pas du tout les X-Men du passé. Hein. C'est vraiment...
Oui, c'est l'équipe de Cyclope.
En fait.
Hein.
Oui, c'est ouais, voilà, c'est ça. Comme tu l'as dit, Sam, c'est l'équipe de Cyclope.
C'est ça. Ouais, c'est l'équipe de Cyclope surtout qui est au centre du focus, quoi. Et bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bon. Voilà, le sujet m'a bien plu. Je suis scotché. Enfin, je suis en tout cas séduit.
Ben, idem. Idem pour moi. Bah disons que Bendis commence bien l'épisode pour moi en indiquant que Cyclope est de nouveau populaire, en fait, extrêmement populaire auprès des mutants, parce que selon moi, et je suis d'accord avec la version de Bendis, bah il fait le boulot des X-Men en fait. Hein. C'est-à-dire il va sauver les X-Men, il fout un peu le bordel, mais il va sauver les mutants. Donc en gros pour moi il fait le boulot des X-Men et c'est exactement le propos de Bendis. Donc du coup, pour moi, l'épisode a très bien commencé. Je me suis dit, ah, c'est bien, Brian, tu commences très bien. Et ensuite, on a de bonnes scènes d'action. Oui, c'est sympathique. C'est peut-être
un
début
peu...
de complot autour des Sentinelles, donc pourquoi pas.
Ouais, mais je suis un petit peu plus réservé que toi, parce que j'ai eu la sensation que c'était pas seulement les mutants qui aimaient Cyclope, mais la population en
ouais,
général.
Oui, en fait, ouais, il est un sujet de mode, en fait, le mec.
Et ce qui m'a étonné, puisque d'habitude, les mutants, quand même, les gens ne les aiment pas justement parce qu'ils ils ont peur des mutants. Et là, je trouvais ça un peu bizarre que d'un seul coup, bah voilà, on adore les mutants parce que le mec est rebelle. Et
ouais, mais en fait, donc, le mec est représenté quasiment comme le nouveau Che. Donc, du
bah
coup,
oui,
il
non,
est populaire.
Ça, c'est, ce que
c'est surtout les jeunes, en fait. C'est montré, c'est surtout les jeunes, en fait, qui le voient comme le rebelle ultime. Donc, du coup, ils adhèrent
ouais,
à mort.
Mais c'est exactement ce que je disais depuis le début, en plus. Le nouveau Che, et bah, pile poil, quoi, c'est ça.
Ouais, c'est bien la preuve. Cyclope, c'est pour les gamins, quoi. Non, je plaisante. Très, très bon épisode. Franchement, entre en matière, j'avais très très peur pour Uncanny X-Men. Et il a la force de pouvoir nous faire deux séries au ton radicalement différent. Une série Uncanny X-Men qui va être vraiment plus sombre, en tout cas à la lecture de ce premier épisode, alors que All New X-Men, c'est quand même assez guilleret et assez gentillé. Notamment de par la présence de gamins.
Je dirais c'est fun et décomplexé, moi. Je dirais, moins piquant dans mes propos.
Non, mais bah, après, gamin ne veut pas forcément dire mauvais, attention, hein.
Ouais.
C'était pas du tout péjoratif, là, de la façon dont je le disais. C'est-à-dire qu'on a vraiment une ambiance guillerette, d'un côté, joyeuse, claire, lumineuse, et là, quand même, un truc un peu crasse,
un peu dark,
assez sombre,
bah, oui,
au fin fond d'un bunker du Shield dans un endroit non localisé. Un traître dans l'équipe, et puis il faut voir le traître que c'est. On va pas le spoiler, mais waouh, c'est.
En même temps, c'est évident.
Ouais. Un peu trop, peut-être, ouais.
Oui, mais
c'est intéressant.
Il y a le visuel, il y a la façon dont c'est amené, la façon dont les choses sont dites aussi sur cette
dernière
page.
Disons que si le personnage avait été masqué au début, ça m'aurait pas gêné. Parce que j'aurais pas compris. J'aurais pas su, c'est-à-dire que s'il était vraiment resté dans l'ombre, alors que là on voit des morceaux, donc on voit des parties de son corps, enfin on comprend que c'est un homme, donc ça spoil un peu parce que par regroupement on comprend très vite qui c'est. C'est ça qui m'a gêné.
Oui, mais il nous met sur des fausses pistes aussi.
Ouais,
c'est, je trouvais ça marrant.
Pistes, ouais, mais...
Il nous met sur des fausses pistes parce que si vous avez cru comme moi à un moment donné que ça pouvait être le personnage que j'ai pensé, ça aurait été quand même étrange.
C'est super clair.
Mais bon. Limite, ça aurait été plus énorme que ce qu'on a là, si ça avait été ce qu'on pensait.
Oui, mais bon, enfin, on a tous pensé la même chose, je pense.
Oui.
Ouais. Bruno, ton avis sur ce premier numéro?
Bah moi j'ai bien aimé, hein. Je suis comme vous, hein. J'ai trouvé le scénario intéressant, j'ai bien aimé le retournement de situation à la fin. J'ai bien aimé le nouveau design des personnages qui ont été faits. Par contre, j'ai une question. Est-ce que un jour Cyclope, il utilise ses petites pochettes qu'il a sur sa ceinture? Parce que je comprends pas l'intérêt d'avoir des pochettes. Je sais pas. Il a
c'est
toujours une ceinture avec une pochette
portable
pour ranger ses clés,
capotes, je sais pas,
sa monnaie aussi.
Mais c'est parce que sur l'image, je trouve que ça fait bizarre son costume, la petite ceinture à pochette.
De toute façon, les pochettes, c'est très 90s. Hein.
Ouais, mais là, du coup, je pense qu'ils auraient pu éviter les pochettes. Mais bon. Non, mais sinon, ouais, moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène du combat contre les sentinelles. Je trouvais ça bien fichu. Voilà, un bon titre, très beau et intéressant et avec du mystère à la fin. Donc, j'irai voir la suite. C'est
N'oublions
beaucoup
pas
mieux
l'épée
que
de
le semaine.
Magic, l'épée de Magic qui a vraiment grandi.
Oui,
C'est-à-dire,
c'était très héroïque
c'est une épée
fantasy,
de
hein, je me
manga
suis
qu'elle a
dit.
maintenant.
Je me suis dit c'était très héroïque fantasy, hein. C'est-à-dire jeu
Ah bah.
vidéo.
Moi, je dirais que c'est très manga, en fait, la
Ouais.
façon dont est représentée son épée.
Ouais, bah
Bah
c'est la même
Bakalo
que
a un
dans
petit
Final
peu un
Fantasy
style.
7, quoi.
Ouais, mais
Voilà,
Bakalo a
c'est
un petit
exactement
peu
ce à
ce
quoi j'ai
style.
pensé.
C'est Cloud.
Oui, je suis d'accord avec toi, Bunny. Bakalo a un style assez manga dans sa façon
Boum, ça
de
fait
poser les
longtemps,
trucs. Oui, ça a
hein.
toujours été. Enfin, ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours
Non, ça
été.
a été à partir du moment où il a changé son style à la fin des années 90.
Ouais, bah
Même
rappelez-vous
avant
de
la
toute
fin des
façon.
années 90, hein, en plein milieu des années 90, hein, vraiment à l'époque où il est passé sur les X-Men et puis ensuite sur Generation X. Et à partir de là, il a vraiment commencé à modifier son style. Et notamment son deuxième run sur Generation X, il a développé le style qu'il a maintenant,
Ouais. Bah,
principalement.
rappelez-vous, dans les années 90, je pense qu'on a tous eu des réactions à la vue des X-Men avec Madureira notamment en disant, Ouh là là,
Ouh
qu'est-ce
là
que c'est
là!
devenu manga?
Oui, ah bah oui, complètement. Complètement, ouais, ça je m'en rappelle bien. Putain, c'était waouh! Je quittais le manga pour passer au comics, je me dis, oh merde, je retrouve ça
Bah
là-dedans, merde,
en
hein,
même temps,
quand
c'était
même.
tellement bon.
Je reste mitigé.
Ah, ah
Et
non, moi
non,
j'ai
mais avec
adoré.
l'encul,
Non, il
avec
y a des
le.
très bons passages, il y a des très très bons passages super bien dessinés. Et pareil, il y a des moments où c'est vraiment un peu trop, quoi.
Bah c'est rushé à certains moments.
Avec le recul, c'était pas au fait si manga que ça maintenant comparé à ce qu'on peut avoir de nos jours, mais pour l'époque, c'était quand même un sacré basculement.
Oui.
Ah bah
Bah
c'était
c'était une
novateur, oui.
révolution
Surtout aux États-Unis.
parce qu'il y avait toujours eu la vieille confrontation lecteur de comics, lecteur de manga. Et voilà, c'était une nouvelle génération qui en fait avait lu les deux.
Bah, pour nous, Français, c'était plus facile, mais c'est vrai
Oui.
qu'aux États-Unis, le manga n'était pas encore autant en vogue, surtout au milieu des années 90. Ça débarquait, ça commençait juste à débarquer, à prendre un peu. Donc effectivement, pour eux, ça restait assez novateur comme
Voilà.
style de dessin.
Pour une fois qu'on était en avance.
Et on digresse là.
Oui,
Ouais.
oui. Et ça explique des choses aussi. En tout cas, bonne entrée en matière. Pour
Ouais,
ceux qui ont mis
ouais, ouais.
X-Men
Bon
1,
numéro. Un bail, hein, pour moi.
j'avais peur d'un gros désastre perso et finalement, très très bonne surprise.
Un bail
Tu m'avais
aussi pour
dit hier
moi.
soir que t'étais vraiment très très inquiet et que tu pensais que
Ah
ça allait
oui.
être une grosse bouse.
Ah oui, moi je m'attendais à du caca. Hein.
Moi
Après avoir
aussi, hein,
lu
mais donc
X-Men,
du
je
coup,
m'attendais à
agréable
du caca.
surprise.
Même si le dernier, effectivement, je l'ai lu avec un petit peu de retard, le dernier au New X-Men, le 7, est pas si mal que ça, au contraire. Même plutôt un bon épisode comparé au reste. Donc bon.
Et bah voilà, bah vous allez aimer Bendis.
Ah mais après, c'est moi Bendis, je l'aime bien. Hein. C'est juste,
Non,
j'aime
non, mais
pas sur
enfin,
les
je veux dire,
X-Men.
sur les X-Men, vous allez voir. Vous allez
Bon,
voir.
bye général, hein.
Oui?
Ouais.
Ouais.
Et est-ce le coup de cœur de quelqu'un? Non?
Ça aurait pu,
Ouais, ça aurait
mais
pu, hein, comme moi aussi.
quelque chose d'autre va remporter mon cœur aujourd'hui.
Oh, c'est beau, c'est tellement bien dit.
Moi, c'était pas
En
le premier
plus,
Robin, je
un,
sais
une
plus si
journée
je
de
l'avais dit.
Saint-Valentin.
Ouais, c'est dit le Saint-Valentin, c'est vrai que c'est beau. Batman et Robin, ton coup de cœur, Bruno, hein, tu viens
Ouais,
de le
pour moi,
préciser.
ouais.
Ouais. La suite, c'est le Wolverine and the X-Men numéro 25, Sam.
Oui, toujours écrit par Jason Aaron et cette fois-ci dessiné par Ramón Pérez, donc dessinateur que je ne connais pas du tout. Au style
Très, très
assez.
particulier, hein.
Oui, c'est très particulier, il faut s'y habituer. Hein. Mais une fois qu'on a accepté la manière dont il interprète les personnages, ça va mieux.
Ramón Pérez
Par
qui est
contre,
déjà l'auteur primé en plus. Hein.
ouais. Le
Il
nouveau
a déjà
style.
reçu des Eisner, je crois.
Ouais. Par contre, le nouveau physique de Beast, je m'y fais pas. Hein. Là, il est dessiné, mais à un moment, tu sais, il est dessiné de dos. Le mec, on dirait un démon. Hein. Ses oreilles pointues, tu te dis, mais c'est quoi ce machin? Bon, alors c'est simple, le pitch, c'est Wolverine qui ramène ses élèves en Terre sauvage et qui leur dit, voilà, c'est leçon de survie, vous vous démerdez. Vous avez des dinosaures partout, ils vont tous vous bouffer. Donc vous
Il
avez
n'était pas
intérêt à
déjà
bosser
bloqué en
ensemble.
Terre sauvage
Et
avec
oui,
Shanna?
et j'allais dire exactement la même chose.
Quoi?
Je disais, il n'était pas déjà bloqué en Terre sauvage avec Shanna?
Déjà, oui. Bah du coup, il y revient. Hein. Il ressort, il revient. Bon.
Pardon, c'était facile.
Ce qui aurait été drôle, c'est qu'il les emmène dans le Murder World et qu'il leur dise, bon bah voilà, démerdez-vous. Ah bah tiens, il y a déjà des gens dedans.
Bah ça vous
Et
fera
d'ailleurs, il y a une
des
petite
mannequins
référence.
d'entraînement, allez hop.
D'ailleurs, il y a une petite référence à Avengers Arena à la fin. Ce qui m'a fait bien marrer.
Ah ouais.
Ouais.
D'accord.
Donc un épisode assez sympathique. Jason Aaron, alors je peux en parler puisque c'est dans les deux premières pages, ramène le frère de Wolverine, donc Dog.
Le frère.
Dog, tu sais, dans la mini-série Origin.
Ah, oh, d'accord, ok.
Et en fait, pour comprendre, il faut avoir lu la mini-série Astonishing Wolverine and Spider-Man.
D'accord.
Oh
Parce
putain,
qu'il
il
y a
va
une
chercher des
référence.
trucs loin, lui.
Pardon?
Je dis, il va chercher des trucs assez loin. En même temps,
bah, c'est lui qui l'avait écrite.
Bah oui, voilà, c'est pour ça.
Donc en fait, il ne fait que reprendre le fil d'une intrigue qu'il avait lui-même lancée. Il était temps, parce que ça remonte à plus d'un an et demi quand même. Un épisode, comme j'ai dit, sympathique. Aaron essaye de retrouver la voix de l'humour qu'il avait instillée dans la première année du titre. Ça commence à revenir. Pas complètement encore. Il y a des petits moments un peu... oui, c'est sympathique, mais sans plus. Et d'autres qui sont franchement marrants. Il y a le fil de l'intrigue de Brou, le petit Brood qui continue. Donc on sait qu'il s'était pris, je peux le dire, puisque c'était il y a 6 numéros maintenant, bon, ce qui est à dire il y a 3 semaines, vu le rythme de publication. À la fin de l'épisode 18, donc il se prenait une balle dans la tête, sauf qu'il crevait pas. Il restait dans le coma, il se réveillait à la fin de l'épisode dernier, et enfin on voit les répercussions que ça a eu sur lui, puisqu'en fait il a complètement régressé au stade de Brood complet, mais Brood sauvage. Donc ce qui fait qu'il bouge
un peu trop là.
Pardon ?
T'en dis peut-être un peu trop, non ?
Ah non, non, c'est dans les premières pages. Donc si vous avez lu les previews, je révèle rien.
D'accord. Et je sais pas, je l'ai pas lu, c'est pour ça que...
Voilà.
Je
ouais, mais non, mais le truc marrant, c'est que, des... en fait, Idy le tient en laisse durant tout l'épisode et on le voit bouffer des dinosaures à tous les coins. C'est très marrant, ça. Donc, toujours une lecture à suivre et félicitations à Jason Aaron pour avoir réussi à pondre 25 épisodes d'affilée. Parce qu'aujourd'hui, chez Marvel, une série à 25 épisodes, c'est pratiquement hors, quoi.
J'avais une question juste par rapport à un truc que je trouve pas très logique. C'est comment ça se fait que Quentin Quire il soit encore un gamin ? Je veux dire, ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'école. Et c'est un des.
Non, il doit avoir 17-18 ans là. Hein.
D'accord. Ouais, parce qu'en fait, bah, tu vois, par exemple, par rapport aux Young Avengers où ils les font vachement vieillir en fonction des events, je trouve que lui,
ouais,
c'est un personnage
les séries,
que j'aurais
hein,
plus vu maintenant parmi les profs que parmi les élèves.
Chez Marvel, la règle, c'est 5 ans de chez nous, ça équivaut à peu près à un an marvelien.
Voilà. Et ouais, ensuite, ça dépend des auteurs et la manière dont ils veulent utiliser les personnages. S'ils veulent les faire vieillir, ils les font vieillir. S'ils veulent les garder à peu près au même âge, ben ils les gardent au même âge.
Ouais, ça c'est un peu bizarre.
Et enfin, le truc que j'avais oublié de mentionner, c'est que on a les petits graphiques qu'on avait eus, vous savez, à la fin du premier épisode, avec la liste des élèves et la liste des cours. Sauf que là, c'est modifié donc avec tous les arrivants d'Utopia. Et ce qui m'a fait particulièrement marrer, c'est la nouvelle liste des cours, puisqu'il y a des nouveaux profs. Donc vous avez des trucs aussi marrants que le combat psychique, attention le cours peut entraîner de sérieux dommages cérébraux, et t'as la petite note de Wolverine, mais faites en sorte que Quire participe à ça.
J'ai une question juste pour toi aussi, pour un numéro 25, il n'y a pas un truc, vraiment un événement qui bouleverse
non.
un petit peu le...
Bah à part le retour D'accord. de Dog, non.
D'accord.
C'est quand même un gros retour, puisque ça faisait, comme je le dis, ça fait plus d'un an et demi qu'on ça a été lancé par A.O. Donc, il était temps qu'ils reprennent ça.
Chez Marvel, c'est fini les numéros 25 anniversaire. Hein. On préfère te sortir 3 numéros par mois, voire 4 quand c'est possible, plutôt que te faire sortir un double que tu vas payer plus cher.
Voilà. Donc, toujours un bail pour moi.
On passe à l'autre nouveauté de la semaine. Bruno, tu nous en parles. C'est la sortie du Secret Avengers numéro 1. Et avant de commencer, c'est le coup de cœur de Benny et de moi.
D'accord. Bon, je vais vous laisser la parole vite fait.
Ah non, vas-y, je t'en prie.
Donc, Nick Spencer au scénario, Luke Ross au dessin. Bon, c'est le Shield. On retrouve les personnages de Coulson et de Nick Fury. Le Nick Fury nouvelle génération, le Black.
Bah, c'est le
fils
Fury
de l'autre.
Depuis maintenant un an. Hein.
Ouais, voilà ça. Mais que pour l'instant, on n'avait pas trop vu présent dans les comics. Hein.
C'est vrai.
Donc là vraiment, ça tourne autour de ces deux personnages. Coulson, qui, sous l'impulsion de la chef du Shield, lance une nouvelle équipe de, entre guillemets, Secret Avengers. Et pour la première mission, en fait, il essaye d'embrigader Hawkeye et Black Widow. Donc cette mission, ça concerne en fait l'arrestation d'un méchant de l'Europe de l'Est qui utilise un peu la magie noire et qui fait du trafic. En fait, il veut vendre une technologie de téléportation à Al-Qaïda. Donc c'est assez amusant.
Ça te fait rire ces choses-là, toi?
Non, mais ça m'a fait rire qu'ils utilisent, enfin surtout la, je veux pas dire la dernière page, mais bon, l'attentat, j'ai trouvé que la scène était assez drôle, mais.
Moi, c'est ce qui m'a un peu, c'est juste le seul truc presque qui m'a embêté, c'est qu'on prenne Al-Qaïda. Il y avait d'autres moyens, enfin il y a tellement d'organisations terroristes dans Marvel, servir d'Al-Qaïda, pourquoi essayer d'ancrer ça dans le réel? Ça se trouve,
c'est
dans
clair.
10 ans, Al-Qaïda aura complètement disparu, et finalement le comics sera complètement daté.
J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, moi aussi. Par contre, donc il y a une petite histoire, c'est-à-dire que dans l'histoire, c'est que ces nouveaux Secret Avengers, comme ils vont travailler sur des sujets très sensibles, ils sont censés, ils auront des informations très importantes et donc ils sont censés les oublier. Et pour cela, il y a des histoires de puces mémorielles. Et voilà, bah c'est, je vais pas trop en dire plus, mais ils vont peut-être essayer un peu de contrôler les gens contre leur gré.
Ouais, bah en fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu une équipe entre guillemets de nouveaux Secret Avengers. C'est ce qui m'a dérangé moi, c'est le côté franchement Secret Avengers mes fesses quoi. Ça aurait pu s'appeler The Shield, ça aurait été plus vrai puisque finalement c'est vraiment le Shield dans toute sa splendeur et dans toute sa décadence.
Mais je suis pas forcément d'accord au vu de la dernière page. Tu comprends pourquoi il y a quand même Avengers. Et puis il y a que les personnages du film. Donc il fallait bien l'appeler Avengers pour attirer les gens.
Oui, bah c'est ça. C'est justement ce que je reproche. C'est le côté
Mais je
marketing
suis
de
pas
la
certain que
chose.
ça tourne que autour du Shield. Tu vois, enfin.
Ouais, mais
Bah en
je
tout
suis pas
cas
sûr
là,
que ça
ce premier
tourne que
épisode.
autour des Avengers aussi quand on voit la couverture du numéro 2.
Ce premier
C'est pas
épisode pour
vraiment
moi,
un Avengers.
ça devrait s'appeler Shield, quoi. C'est vraiment The Shield à 100%. Et d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs, c'est un petit côté Shield avec Vic Mackey. Si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Un gros gros côté, ça m'a fait penser à ça dans cet épisode. En tout cas, gros coup de théâtre, vraiment.
Ah ouais, impressionnant.
Très bon. Et puis de l'humour, encore une fois, Hawkeye, il est tellement chiant au cinéma, mais tellement bon dans les comics, je ne comprends pas.
Mais
Très
il est
bien
pas chiant au
écrit, ouais.
cinéma, il est pas là. Il était dans le film. Ah, je l'avais pas vu, moi.
Bah, je trouvais qu'on le voyait trop, moi, justement.
Mais non, on le voit à peine.
Ah non, ah non, Black Widow et Hawkeye, on les voit vachement dans Avengers et on les voit beaucoup trop, j'ai
Hawkeye, en
trouvé.
plus, il a l'air constipé pendant tout le film, quoi.
Ouais.
Mais c'est parce qu'il est contrôlé. Moi, je parle du Hawkeye sain d'esprit, on le voit 2 minutes.
Ouais, non, mais moi je parle de Hawkeye en général, je trouve qu'on le voit trop dans ce film
Dans le film,
et
il sert
voilà.
à rien, quoi.
Et il sert à rien, ouais. Mais bon, toujours est-il que dans les comics, déjà dans son propre titre, il est génial. Et là, on retrouve tout l'humour du personnage. Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire où il parle des James Bond et comme quoi les personnages changent de gueule au fil des épisodes. Et enfin voilà, il y a vraiment énormément d'humour là-dedans. Et j'ai été agréablement surpris parce que je n'attendais rien de ce titre.
Il y a beaucoup d'humour aussi vis-à-vis de Marvel et de la stratégie Marvel actuelle, notamment par rapport aux personnages du film, etc. Il y a des espèces de petits sous-entendus qui
Ouais.
sont vraiment très agréables et qui te font sourire, même si t'as pas envie, tu te dis ouais, quand même. Voilà, Nick Spencer dévoile un petit peu le truc discrètement et
Mais
en sous-entendu.
il me semble que dans le film d'ailleurs, il parlait d'une histoire entre Hawkeye et Black Widow qui se serait passée à Budapest. Et là, c'est le premier numéro, ça se passe à Budapest aussi. C'est vraiment les gros clins d'œil au film, quoi.
Les dessins de Luke Ross vont très très bien, à cette
Ouais,
tendance
c'est
un
pas
peu
mal.
sombre, etc.
C'est
Un
mieux que
petit
ce
peu
qu'il a pu
Black
faire
Ops.
sur des titres Ultimate, ouais.
Non, franchement, un très bon titre, hein, comme tu l'as dit, Bunny, cette espèce de coup de théâtre, notamment. Moi, ça m'a fait aussi vachement penser à Dollhouse, en fait. Ce côté mémoire qui va retenir des informations. Enfin voilà, j'ai vraiment pensé à Dollhouse. Hop, on efface la mémoire en quelque sorte de l'agent qui a participé à la mission.
Bah, moi, ça m'a fait penser aussi un petit peu au coup de théâtre qu'on avait eu il y a quelques temps, malheureusement pour un titre qui n'a pas duré. C'était Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais plus là, tu sais, comment s'appelait ce titre? Avec Misty Knight.
Heroes for Hire?
Et Rose Fire, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais
C'était
ce
ce que tu fais ce
soir?
soir? Je pensais que tu parlais, que tu plaisantais, que tu parles nous sortais un titre de film français,
Non,
honnêtement.
non, mais en
Ça
plus
aurait
c'était un
pu.
peu ça,
Qu'est-ce
quoi.
que tu fais
C'était.
ce soir? Passe par
Ouais.
la porte, moi je passe par la fenêtre. Ça
Bah,
pourrait très bien être un titre français,
c'était un petit peu ça.
ça. Bon. Oui, il y a un petit peu cet esprit-là aussi, effectivement, dans la série. Franchement, si ça continue comme ça, on tient peut-être un gros hit en puissance, quoi. Mais j'ai peur que ce soit une série qui soit difficile à suivre ensuite pour ceux qui n'auraient pas pris le train dès le départ.
Ouais.
Ça
Ça
risque
pourrait
de
faire un
rester un
bon
petit peu.
scénario pour la série Shield. Hein.
Il en faut, ouais, c'est
Parce
vrai.
que ça permettrait de faire venir des nouveaux persos chaque semaine.
Ah bah
Mais bon.
franchement, si la série Shield c'est ça, banco.
Bah ouais, mais justement, ça va peut-être être un peu dur hein, de faire aussi
Ouais,
bien.
enfin, ça n'a pas scié à Dollhouse, hein, une histoire assez compliquée où il faut quand même regarder des épisodes de façon régulière pour pas être perdu et rater aucun épisode. Ça n'a pas scié à Fringe non plus. Attention, hein, c'est risqué quand même. Enfin bon, très bon premier épisode,
Ouais, bon
gros bail,
titre.
coup de cœur pour moi.
Un petit bail pour moi.
Benny?
Ah oh non, moi un gros bail, pareil, je suis conquis là.
On termine très rapidement avec le quatrième épisode de Fantastic Four, toujours scénarisé par Matt Fraction, avec au dessin Mark Bagley. Alors Mark Bagley, ben, après, si on n'aime pas déjà le style de départ, on n'aimera pas ça, mais... Voilà, moi je le trouve très bon, très à sa place sur ce genre de titre, très familial. Les quatre fantastiques vont tomber sur une planète avec laquelle ils ont communiqué pendant plusieurs semaines. Et arrivés sur cette planète, ils sont un peu traités comme des rois. Et on se rend compte qu'il y avait leur peinture sur des cavernes dans lesquelles ils dormaient, ils allaient se reposer, ils allaient évoluer pendant des années.
Oh tiens, Colossus.
Voilà, il y avait leur peinture, la peinture des quatre fantastiques sur leur planète alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Comment est-ce possible ? Épisode sympathique, mais honnêtement, comparer ça à FF, et ça c'est du caca.
Ouais, mais, non, mais c'est surtout que c'est du déjà vu tout ça. Enfin, j'avais l'impression que c'était même une histoire qu'on avait déjà lue sur les quatre fantastiques, le côté j'arrive sur une planète où... Souvent, tu sais, ils arrivent dans une dimension, puis t'as Jeanne... non, comment elle s'appelle ? Suzanne ?
Sou.
Je sais plus. Ouais. Sou. Voilà.
Suzanne,
Sou,
c'est ça. Suzanne.
Sou, on lui dit ouais, t'es notre déesse, on t'attend depuis super longtemps. Ou ça arrive souvent à Storm aussi. Enfin, c'est vraiment des histoires récurrentes. Et alors là, il y avait pas trop ce côté-là, puisque j'ai quand même feuilleté le bousin. Mais bon, ça me faisait quand même penser à ça. Le côté peinture élu, vous êtes là, on vous attend depuis longtemps. Ça me faisait penser aussi à
L'explication
Colossus.
Se trouve dans le numéro. Hein, de toute façon, c'est peut-être le problème de Fantastic Four, c'est que d'un côté, l'écriture en one-shot, c'est agréable, mais ne faire qu'une écriture en one-shot,
bah ça,
je
pense
pas.
Que ça manque d'ambition, voilà, ça manque de grandeur, alors que franchement, FF...
à côté, voilà, est une tuerie, celui-ci est tout juste passé. Alors pour moi, ce sera tout juste un check-it, quoi. Tout juste. Vraiment, c'est à la limite du pass, parce que j'ai quand même l'impression que cet épisode-là, si on le zappe, on n'aura pas raté grand-chose. Alors oui, il met l'accent sur le côté familial, il revient un petit peu à ses racines FF, le côté famille, etc. Mais, enfin, FF, 4 Fantastiques, pardon. Parce que maintenant, faut faire gaffe avec FF. Sinon, ça peut être compris comme l'autre série. Je me rattrape
comme
vite aux branches. Je me rattrape aux branches. Attends, c'est la Saint-Valentin, tu vas pas parler de FF quand même.
Justement, en parlant de Saint-Valentin, donc j'ai une question sur cet épisode que j'ai feuilleté simplement. Ça a l'air d'être tendu entre Sou et puis Red. Alors, il y a une révélation, il y a un truc, il y a quelque chose quand même.
Faudra lire.
Ah bah non, mais c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup ?
Comme je dis, je pense qu'on peut zapper cet épisode.
D'accord, donc c'est pas super intéressant.
Sachant que ça se passe juste à la fin de l'épisode, à mon avis, voilà, on peut franchement limite zapper celui-ci. Donc voilà, tout juste check it, limite passe. Check it moi. On termine avec les TP de la semaine, les petites sorties en TPB intéressantes. On a notamment le Scarlet Spider, même si vous pouvez le retrouver déjà dans les pages du Spider-Man en français. Si vous ne voulez lire que Scarlet Spider, vous avez le TP qui sort. Le premier TP de Hypernatural, la série de Dan Abnett et Andy Lanning chez Boom Comics. Très bonne série.
Ouais, je sais pas, j'ai lu que le premier.
Je confirme.
C'est bien par la suite ou...
Ouais.
Ah, par contre, faut être attentif quand on lit. Hein. Énormément de personnages, ouais. Mais c'est grosso modo, c'est la Légion sans la licence. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est la Légion, mais c'est Dan Abnett et Andy Lanning qui conservent tous les droits.
C'est franchement très 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 intéressant. Le deuxième TP de Suicide Squad sort chez DC cette semaine, ainsi que celui de Stormwatch. Deux
ouais.
séries que tu lis, toi, Bruno.
Ouais, deux séries que je lis, que j'aime bien. C'est pas les meilleures séries de DC, mais c'est au milieu dans les bonnes séries, quoi.
Et enfin, chez IDW, le TP de Mars Attacks, la mini-série écrite par John Lehman, qui était très sympathique. Voilà, les petits TP de la semaine intéressants. Pas des masses de sorties, encore une fois, cette semaine en TP, mais voilà, des petites sorties sympathiques s'il y a des choses que vous avez ratées. Et on vous encourage fortement à prendre Hypernatural si vous voulez voir de la grosse SF bien chiadée. Ouais, voilà. On n'a pas exactement la même expression, mais ça revient au même.
Ouais, c'est le même principe.
C'est tout pour cette semaine, de bonnes lectures, de bonnes surprises, des petites déceptions finalement aussi, un peu de tout et encore une fois une semaine assez variée finalement.
Tout à fait.
Une bonne pioche. La semaine prochaine par contre ce sera l'apocalypse, l'avalanche de titres.
Ouais.
L'apocalypse.
Franchement faites des économies cette semaine j'ai envie de dire, parce que la semaine prochaine vous allez pleurer.
Ouais, bah, c'est nous qui devons les chroniquer je te rappelle. Hein.
On a énormément de gros titres à vous parler la semaine prochaine. On fera peut-être une émission un peu plus longue, on fera peut-être une émission d'une heure et demie la semaine prochaine, on ne sait pas encore. Ça va dépendre de nos lectures et aussi du temps que l'on a. Ça a tout. Enfin, c'est assez flou pour le moment puisqu'on a aussi le Comic City enregistré, donc forcément.
Oui, on va être dans un état, je vous dis pas.
Ça devient compliqué. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook. N'hésitez pas à liker la page et à envoyer les liens pour faire liker vos amis aussi. C'est pas grave, on prend tout le monde. Et s'il n'y a pas de vanne sexuelle. Il n'y a pas de vanne sexuelle. On se retrouve aussi, bien sûr, sur Twitter, @ComicCity, et vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes ou sur le site. Et comme d'habitude, d'ici la semaine prochaine, lisez bien.
Non, lisez mal, tiens.
Voilà. Lisez à l'endroit.
Ouais, que quelqu'un reprenne. Bah, plus les gens.
À la semaine prochaine.
Et toujours avec 2 jours de retard, du coup, bonne Saint-Valentin.
Oh putain.